Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Littérature. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Emmanuel Morse-Duncan. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi pour une dispute donc exceptionnellement consacrée un mardi soir à la littérature, car jeudi nous fêterons la musique. Autour de moi donc Elisabeth Philippe, Jean-Christophe Brianchon, Étienne de Montetti pour parler ensemble des mémoires, volume 1 et volume 2 de Simone de Beauvoir dans la bibliothèque de la Pléiade. Et nous parlerons également de Chicago, le ciel et l'enfer de Nelson Algren chez Bartilla. Boris Pino est avec nous également pour suivre vos réactions sur les fils Twitter et Facebook. Et puis des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des hors-série Télérama, l'appel de la forêt, en partenariat avec France Culture, disponible actuellement. Nous allons consacrer deux tiers de cette dispute à Simone de Beauvoir, ce qui est la moindre des choses pour les deux volumes d'écrits autobiographiques qui viennent de paraître dans la bibliothèque de la Pléiade, Mémoire d'une jeune fille rangée, La force de l'âge, La force des choses, Une mort très douce, Tout compte fait, La cérémonie des adieux sont donc ici réunis dans cette édition publiée sous la direction de Jean-Louis Janel et d'Eliane Lecarme-Tabonne avec la collaboration d'Hélène Batty-Delalande, Alexis Chabot, Valérie Stemmer, Jean-François Louette, Delphine Nicolas-Pierre et Elisabeth Russo. Avant de nous plonger dans ces pages, on va écouter Simone de Beauvoir en 1959. On est juste après la parution des Mémoires d'une jeune fille rangée.
Dans le premier volume des Mémoires, j'ai assez facilement trouvé une certaine distance à mon enfance. J'ai eu beaucoup plus de mal pour trouver une certaine distance avec ma jeunesse. Est-ce que j'allais être complètement d'accord avec elle ou la juger avec une espèce d'ironie détachée ? Trop d'ironie, ce n'est pas bien, parce qu'après tout, pourquoi est-ce que je me moquerais de la jeune fille que j'ai été, même si j'ai été stupide ? Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas à prendre des supériorités, c'est pour ça qu'on est plus âgé sur ce qu'on a été quand on était jeune. Trop de complaisance, c'est également ridicule, parce qu'il n'y a pas à penser que tout ce qui vous est venu dans la tête était important et avait de la valeur. Donc il faut trouver une distance, qui soit à la fois de la sympathie et tout de même de la critique.
France Culture. La dispute.
J'ai cité beaucoup de noms qui ont concouru à l'édition de ces deux volumes des Mémoires de Beauvoir en Pléiade. J'en ai omis un. On va commencer par elle, Sylvie Le Bon de Beauvoir, qui a établi la chronologie de ces deux volumes, mais qui a une importance bien plus grande que cela. Elisabeth Philippe, vous l'avez rencontrée pour l'Obs avec notre camarade Grégoire Le Ménager. Mais qui est Sylvie Le Bon de Beauvoir ?
Sylvie Le Bon de Beauvoir, c'est la fille adoptive de Simone de Beauvoir, pardon. Et effectivement, c'est désormais la personne qui s'occupe de tout l'héritage de Simone de Beauvoir et qui est notamment en charge de la publication des inédits et qui a contribué à cette édition en Pléiade, donc des mémoires de Simone de Beauvoir. Et c'est elle vit par et pour l'œuvre de Simone de Beauvoir. C'est assez touchant et fascinant de l'entendre parler de celle qui a joué un rôle majeur dans son existence.
Et c'est elle qui a fait aussi l'album Beauvoir.
L'album qui est très beau.
Votre libraire vous offrira si vous achetez trois volumes de la Pléiade.
Très bien la réclame. Et avec énormément de photos et donc un texte de Sylvie Le Bon de Beauvoir, un texte qui permet d'accéder d'une façon peut-être plus personnelle à Simone de Beauvoir. Et donc elle a beaucoup œuvré aussi, elle a été évidemment sollicitée pour cette édition en Pléiade et c'est vrai que je lui ai demandé pourquoi le choix s'était porté sur les mémoires dans un premier temps. On aurait pu penser que ça allait être les essais, c'est vrai que Simone de Beauvoir nous paraît plus connue pour le deuxième sexe.
Alors il n'y a pas le deuxième sexe, il n'y a pas les mandarins, son roman qu'elle prit Goncourt,
c'est finalement
un choix,
assez...
c'est là-dessus que je voulais ouvrir en effet.
Elle a pas vraiment répondu, mais je pense que c'est finalement assez symptomatique de la façon dont Simone de Beauvoir a été reçue en France et continue d'être reçue, c'est-à-dire qu'elle reste plus célèbre et connue pour ses romans et son œuvre autobiographique, alors que à l'étranger, notamment aux États-Unis, c'est l'inverse. Là, elle est vraiment célèbre pour ses essais, à commencer par le deuxième sexe. Peut-être parce que en France, le philosophe c'était avant tout Jean-Paul Sartre, et que ce rôle était moins reconnu à Simone de Beauvoir. Donc ce choix des mémoires pour ouvrir la publication de l'œuvre de Simone de Beauvoir en Pléiade est assez symptomatique de ce point de vue-là. Et puis il est aussi assez amusant parce que Simone de Beauvoir ne cachait pas, elle en parle notamment dans Le Deuxième Sexe, ne cachait pas le mépris qu'elle pouvait ressentir à l'égard des mémoires, notamment lorsqu'ils étaient écrits par des femmes, en estimant que les femmes n'arrivaient jamais au niveau de Rousseau ou de Saint-Augustin dans ce domaine. Et surtout, elle était assez réticente, et ça elle le raconte notamment dans La Force des Choses, à l'idée, comme elle l'écrit, de se jeter toute crue dans un livre. Mmh. Et c'est, comme elle le raconte, toujours dans La Force des Choses, lors d'une soirée de 1937 au Dôme, elle discute avec Jean-Paul Sartre et c'est lui, selon elle, qui l'encourage à parler d'elle et à se raconter dans des livres, même si, comme toute jeune femme de la bourgeoisie, elle a tenu un journal très tôt, elle a consigné ses impressions et ses souvenirs très 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 tôt dans des journaux. Et donc c'est amusant parce que finalement les mémoires sont devenues une des pièces centrales dans son œuvre. Puisque des mémoires d'une jeune fille rangée jusqu'à la cérémonie des adieux où il est question de la mort de Jean-Paul Sartre, finalement elle a retracé toute sa vie dans ce cycle mémorial.
Alors, c'est vrai qu'elle a commencé très jeune les journaux, mais elle a commencé très jeune aussi les romans, donc voilà, on aurait pu revenir par là, mais l'éditeur de cette Pléiade parle de cette écriture de sa vie comme de la voix royale de son œuvre. Peut-être poursuivre ce tour de table sur cette question, Jean-Christophe Brianchon, est-ce que c'est un choix qui vous paraît judicieux?
Ah oui, plus que judicieux, absolument parfait. Même je pense que c'est exactement par là qu'il faut entrer dans l'œuvre de Simone de Beauvoir pour ceux qui souhaitent s'y intéresser, parce qu'elle le disait elle-même, mon entreprise, mon œuvre, c'est ma vie même. Et donc finalement, c'est assez logique de commencer par là, puisque malgré la puissance de sa pensée dans ses essais, finalement, peut-être l'intérêt fondamental de toute sa démarche de vie a été l'écriture de ses mémoires, non seulement je pense peut-être d'un point de vue psychanalytique d'elle par rapport à elle-même, mais aussi pour ses lecteurs. Je pense que c'est un endroit de son œuvre qui nous permet exactement d'avancer comme ses essais essayent de nous faire avancer aussi dans nos vies et dans le monde. Je pense que par ce livre-là, elle nous raconte bien au-delà du document historique qu'il représente. Elle nous raconte évidemment une histoire, un temps, sa vie dans ce temps-là, mais elle nous permet aussi, à nous, à travers l'exigence qui est la sienne, ce qu'elle appelait l'exigence de soi, c'est à travers cette exigence-là, elle nous permet à nous-mêmes d'avoir accès éventuellement à ce qui est très bien dit dans la préface. Les deux auteurs parlent d'autofinalisation de soi, et peut-être que par l'entrée en matière dans de Simone de Beauvoir par ses mémoires, ça peut nous permettre aussi éventuellement d'atteindre ça. C'est très judicieux. Donc.
Étienne de Montetti, c'est judicieux?
Oui, parce que je pense que c'est ce qui a le moins vieilli quand même. Non, je ne fais pas de polémique. Non, mais... Le Deuxième Sexe reste un document dans l'histoire de la pensée. Aujourd'hui, les gens qui travaillent ces sujets sont bien au-delà de ce qu'elle a dit, même si elle a ouvert beaucoup de portes, etc. Et ses romans, le Mandarin, par exemple, c'est quelque chose qui, à mon avis, a beaucoup vieilli. Et ses romans ne sont pas tous très égaux. Là, il y a une femme dans la maturité, et puis on va en parler pendant toute cette émission, il y a aussi la matière qu'elle aborde, la vie intellectuelle, sa réflexion sur elle-même, sur sa condition, etc., qui en fait un document littéraire, un texte absolument majeur. Donc ça se justifie en soi. Après, d'autres choses viendront, explicitées d'ailleurs par ses mémoires, puisqu'elle évoque notamment la rédaction du Deuxième Sexe dans ses mémoires. Elle évoque la rédaction des Mandarins, et elle montre même ce qu'elle a emprunté des personnages authentiques pour écrire ce roman. Donc, au fond, c'est la meilleure introduction qui soit. Et puis, la qualité, de toute façon, est au rendez-vous.
Alors, on va pas tous les passer en revue de façon systématique, ces différents textes qui composent ces deux volumes, mais quand même commencer par Les Mémoires d'une jeune fille rangée. C'est aussi l'avantage de la Pléiade, toujours que de recontextualiser, par un appareil critique toujours très riche, de nous ramener dans le temps de sa publication. Vous avez le sentiment que ce livre-là, quand il sort, il fait quoi comme effet dans les lettres et dans le monde intellectuel français, Étienne de Montetti?
Il révèle la femme qu'on connaît, et on voit l'émergence, l'irruption d'une personnalité tout à fait hors du commun, qui frappe notamment par sa liberté. Et cette femme qu'on peut peut-être à cause de la mythologie littéraire qu'il a un peu embaumé depuis tant et tant d'années. On voit une jeune fille évidemment pas du tout rangée, avec une liberté, même une audace et une imprudence dans les bars, dans ses relations avec les hommes à l'époque. On est quand même dans les années 30, qui est tout à fait surprenant. On voit quelqu'un qui aime énormément faire la fête. C'est l'émergence d'une personnalité extrêmement attachante. Et puis il y a aussi la construction de cette intellectuelle dans ses rapports avec les garçons, les philosophes qu'elle côtoie. Évidemment, il y a Sartre, mais il y en a d'autres qui sont peu connus, mais avec lesquels également elle échange. Et on voit la construction de cette personnalité qui est quand même deuxième à la grecque, juste derrière Jean-Paul Sartre. On est assez épaté par cette jeune femme. Et puis, elle évoque aussi ses relations avec sa famille. Et puis, cette fameuse Zaza, qui est une sorte de fil de toute son existence, qui est la victime, pour le coup, d'une éducation d'un ensemble de préjugés et qui meurt tragiquement.
À 21 ans.
Exactement, et ça clôt un petit peu le temps de l'adolescence, le temps de l'innocence, peut-être le temps de l'obéissance de la part de Simone de Beauvoir. Et cette mort est évidemment une catastrophe, et elle décide au fond d'être libre pour ne pas subir le sort de Zaza.
Mais c'est un fantôme très présent, qu'on retrouve vraiment jusqu'au bout de ces deux volumes, Elisabeth Philippe. Zaza, c'est vraiment un personnage central.
Un personnage central et qui peut expliquer le côté staccanoviste de Simone de Beauvoir, parce qu'elle écrit sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et là, c'est qu'une infime partie de tout ce qu'elle a pu écrire, parce que c'était aussi une épistolière très, très active. Et la mort soudaine et tragique de Zaza, très jeune, a dû, alors sans faire de la psychanalyse de comptoir, mais l'angoisse de mort chez Simone de Beauvoir est extrêmement présente. Elle en parle très, très souvent. Il y a l'obsession de laisser une trace qui revient de façon continuelle dans tous ces textes et qui peut expliquer aussi ce besoin de tout noter, de tout dire. Alors, ce besoin s'explique aussi par le pacte qu'elle a passé avec Sartre, qui est raconté là encore dans La force de l'âge. Donc ce pacte où notamment il est question des amours nécessaires et des amours contingentes, qu'il passe devant le Louvre avec un chat qui miaule derrière eux. J'y peux rien, s'il y a un chat, c'est vraiment ce qui est dit.
On connaît votre fascination, Elisabeth, pour les chats. Mais il est là, il y en a.
Il est là, témoin de ce pacte. Et dans ce pacte, outre le fait qu'il s'accorde donc une liberté mutuelle, il y a aussi l'idée de tout se dire. Et tout se dire, ça veut dire tout écrire. Et c'est vrai que je crois que c'est vraiment un des points les plus fascinants, en tout cas à mes yeux, quand on se plonge dans ses mémoires, c'est l'extrême vitalité de Simone de Beauvoir, cette énergie qui transparaît, qui se traduit aussi dans les descriptions qu'elle fait de ses marches quand elle est jeune et qu'elle commence à enseigner à Marseille et qu'elle part simplement chaussée d'espadrilles avec une petite brioche et une banane dans sa besace et qu'elle part faire des kilomètres, 40 kilomètres, qu'elle manque de tomber dans des ravins, des précipices parce qu'elle est totalement elle a peur de rien. Et cette vitalité, on la perçoit même dans les textes ultérieure, dans ses voyages, les voyages avec Lanzmann, les voyages avec Nelson Algren, c'est vraiment fascinant.
Jean-Christophe Brianchon, si on poursuit un peu le fil, j'évoquais cette figure de Zaza, c'est vrai, ce livre inaugural de ce cycle avec les mémoires d'une jeune fille rangée, mais il y en a bien d'autres. Par quel nouveau chemin est-ce qu'on passe avec vous ?
Pour moi, le livre le plus touchant, parce que c'est peut-être aussi ce qui m'importe dans ses mémoires, c'est de pouvoir avoir la preuve qu'elle n'était pas que cette machine froide qui fait l'auto-récit de sa vie. Enfin, ce n'est pas que ça. C'est aussi quelqu'un d'éminemment touchant. Et pour ça, j'ai toujours trouvé que La cérémonie des adieux était peut-être le livre le plus, pas le plus important, mais en tout cas le plus intéressant, parce que elle marche tout du long dans ce tome-là sur un fil entre évidemment l'affect qu'elle portait à Jean-Paul Sartre et la relation qui les a unis, qui se termine à la fin de ce tome, puisque c'est les 10 dernières années de la vie de Sartre. Donc ce tome est évidemment marqué par beaucoup de sentiments, si ce n'est de sentimentalisme, mais à la fois on reconnaît toujours sa patte, la patte de cette femme, effectivement, comme vous le disiez, Elisabeth, de cette femme qui de toute façon ne se laisse jamais abattre et qui, même dans la mort de celui qu'elle a aimé le plus au monde peut-être, parvient à de toute façon tirer son épingle du jeu d'une certaine manière. Et elle termine d'ailleurs ce tome par une phrase qui, moi, me reste en mémoire toujours, qui est, elle dit, il est mort, ma mort ne nous réunira pas, il est déjà beau que nous ayons pu.
Sa mort nous a séparés.
Sa mort nous a séparés.
Ma mort ne nous réunira pas.
Et il est déjà beau que nous ayons pu vivre tant de temps ensemble, en substance, c'est pas les mots exacts. Et je trouve que terminer là-dessus, c'est exactement symbolique de la force de vie et à la fois du sentiment fondamental de l'œuvre et de la pensée de Simone de Beauvoir.
Oui, parce que la mort, c'est une chose qui est en effet très présente, qui est très claire dans l'esprit de Simone de Beauvoir. Après la mort, il n'y a plus rien, donc de toute façon, il faut vivre intensément, écrire beaucoup, essayer de travailler sur soi-même, ce qui est quand même aussi, c'est un peu une façon simple de le dire, mais qui est tout à fait à l'œuvre ici. C'est vrai que là, on a fait un grand bond dans le temps, du coup, comme je vous proposais, un nouveau volume. La série des adieux. Vous avez très bien fait, c'était le sens de ma question, mais ça vient clore, mais avec une particularité dans cette édition de la Pléiade, c'est que la cérémonie des adieux a toujours paru avec les entretiens entre Sartre et Beauvoir de l'été 74, me semble-t-il, et que là, pour cette Pléiade, il n'y a que le texte, parce qu'on est vraiment resté sur cette ligne de conduite des éditeurs de cette Pléiade, de rester sur ces textes et ces récits autobiographiques. Alors, il y a les textes qui ont des caractéristiques un peu particulières, on y reviendra peut-être dans un autre temps, une mort très douce étant tout à fait à part, poursuivre peut-être cette exploration de cette Pléiade, par quel autre chemin l'emprunter, Étienne de Montetti, quel autre texte?
Oh ben après, ce qui suit, c'est son récit de la vie intellectuelle à partir de la Libération. Il y a évidemment la guerre, largement liée à sa correspondance avec Sartre, qui lui raconte sa captivité, etc.
Et là, il faut quand même s'engager. Enfin, la guerre, c'est quand même un moment où il faut se rendre compte que le monde existe, qu'il y a des forces en présence, et qu'on peut pas rester apolitique très longtemps.
Oui.
Quand même. Oui, Elisabeth, mais... vous opinez?
Oui, non, bien sûr, parce que jusqu'à...
Pas d'accord?
Si.
Elle l'écrit d'ailleurs, je sais plus, elle dit, tout s'est brisé autour de moi, la guerre est arrivée, tout a changé, mais c'est quand même un rendez-vous manqué. On a l'impression que qui suit sera une façon de rattraper ce rendez-vous manqué, parce qu'il y a cette tentative avec Sartre de monter un réseau de résistance, socialisme et liberté, qui tourne vite court.
On va au théâtre.
Elle va au théâtre, elle est plus préoccupée par l'écriture de son roman, L'Invité.
Elle fait la bringue, la pénurie, c'est pas forcément, à Saint-Germain-des-Prés, très intéressant d'ailleurs sur un plan documentaire, mais la vie qui mène est fascinante, séduisante. Camus est là, Vian, très vite Le Tabou, Anne-Marie Casalis, c'est extrêmement sympathique. C'est très très documenté, d'ailleurs je trouve que c'est un écho passionnant de la vitalité qu'il y a eu à partir de 43, 44 évidemment, puis 45 et tout ce qui suit. Le Queneau qui surgit, et là c'est extrêmement vivant, elle est vraiment libérée, elle raconte tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle rencontre, il y a un intérêt passionnant. Et on se laisse peu à peu embarquer dans quelque chose qui est inouï. C'est le clanisme de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire que tout le monde est jugé à l'aune de ses relations, pas tant avec elle qu'avec Sartre. Et Camus, qui au début est formidable, sympathique, tellement brillant, tout d'un coup on dit mais sa pensée est un petit peu prisonnière de son tempérament. Raymond Aron, le petit camarade de Sartre, d'un coup il a un grand tort, il pense, c'est pas qu'il pense moins bien, c'est qu'il commence à se rapprocher du Figaro.
Ouais.
Alors je passe.
Vraiment.
C'est des fautes qui ne se pardonnent pas chez Simone de Beauvoir. Et évidemment, il faut être assez vigilant parce que tout ça a été écrit de manière très intéressante, de manière très très documentée, et on réalise quand même que elle décide d'implanter un décor selon ses vœux. Thierry Molnier, qui a été un adversaire intellectuel de Sartre pendant tout le temps, Mauriac aussi, Kessler, elle est très très sévère avec Arthur Kessler. David Rousset, qui a le malheur de signaler qu'il y a des goulags en Union soviétique, ou Roger Nimier, dont j'ose à peine prononcer le nom, parce que lui, il a ricané sur le deuxième sexe, alors sur eux, évidemment, elle a des mots très très durs.
Il y a eu des mots très très durs aussi sur le deuxième sexe.
Oui, c'était un ricaneur, évidemment, là, et peut-être que sur ce sujet, elle n'avait pas beaucoup d'humour.
Oui, c'est possible. Oui, c'est ce panorama et cette fresque de la vie intellectuelle, ce que disait Étienne de Montetti est très juste. On est vraiment sur des guerres de position quand même. Hein. Amis ou ennemis, quoi.
Amis, et d'ailleurs, elle parle toujours de la famille. Hein, c'est presque la mafia. Quoi.
C'est avec nous ou contre nous.
Oui, la petite famille. Donc, il y a Bost, il y a les Vian, ce cercle autour d'elle et ça. Mais c'est pas seulement une guerre d'idées, une guerre de positions, c'est toujours très très incarné. Il y a notamment avec Kessler et Camus, elle raconte une soirée qui dégénère dans un restaurant russe, ils ont beaucoup trop bu alors que Sartre doit donner une conférence le lendemain sur la responsabilité de l'écrivain, ils sortent complètement ivre mort et là aussi ça dérape et je crois que Kessler et Camus en viennent aux mains. Donc c'est en même temps, voilà, ça donne une vie, ça donne chair à toutes ces figures intellectuelles dont on connaît les œuvres, mais tout d'un coup deviennent vraiment presque des personnages de romans sous sa plume, puisque il y a toujours cette énergie, c'est une chronique de cette vie intellectuelle de l'après-guerre, et ça, c'est en ce sens-là, oui, c'est très intéressant et agréable à lire aussi, même si, comme le dit Étienne de Montetti, il faut avoir un peu de recul pour recontextualiser et faire la part des choses. Parce que c'est vrai qu'elle elle est toujours dans une démarche à dire qu'elle sera la plus honnête possible, de vérité, tout en disant qu'elle fera des omissions, que parfois elle cachera des choses. Et oui, il y a quand même beaucoup d'omissions, notamment en ce qui concerne ses amours homosexuels dont elle parle. Très ouvertement et de façon très explicite dans sa correspondance ou dans son journal, mais là c'est réduit à l'état de ce qu'elle appelle des flammes et encore même elle s'en défend, il y a des moments où elle raconte que, je sais plus, c'est une de ses collègues, une de ses consoeurs à Marseille aussi, je crois, qu'il commence à lui faire des avances, elle est tout à fait choquée, et puis toutes les jeunes filles qui gravitent autour d'elle, il n'est pas du tout fait mention d'étreintes ou de rapports érotiques, et même le trio qu'elle forme avec Sartre et Olga, qu'elle a la première à venir dans cette configuration particulière du couple Sartre-Beauvoir, est évoquée par allégorie, ou voilà, c'est pas direct. Donc oui, il y a des omissions, et oui, il y a aussi évidemment un biais pour raconter cette vie intellectuelle. Ça n'en reste pas moins un vrai plaisir de lecture.
Oui, c'est mémorialiste engagé, quoi, quand même, qui a son camp à défendre.
C'est justement, enfin, c'est tout l'intérêt de la dépiction de cet instant-là, justement, de cette vie intellectuelle-là, dont elle fait effectivement quasiment un roman, parce que je pense que entre la réalité et ce qu'elle nous raconte, évidemment, comme toujours, il y a une marge, mais et c'est très représentatif de son, non seulement de son exigence, parce que fondamentalement, on doit quand même se rapprocher d'une forme de vérité dont je pense qu'elle fait partie des rares à l'avoir atteinte. Mais il reste que, c'est d'ailleurs également évoqué dans la préface, la différence, enfin l'écart qu'il peut y avoir entre ce passé remémoré et la démarche d'écriture est évidemment important. Un écart qu'elle n'élude pas d'ailleurs nécessairement, parce que je pense pas que, malgré la posture qui était la sienne, on n'a pas le sentiment, en lisant ses mémoires, qu'elle nous impose quoi que ce soit.
Alors, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas dit le nom de Simone de Beauvoir. Alors si quelqu'un allume sa radio, il dit « Elle, mais de qui parle-t-il » Cette « elle », c'est Simone de Beauvoir dans les mémoires, tome 1 et 2, enfin volume 1 et 2, puisque ces textes sont réunis, de Simone de Beauvoir, paraissent actuellement dans la Pléiade.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Poursuivons cette dispute, avec encore évidemment beaucoup de choses à dire sur ces mémoires de Simone de Beauvoir dans la bibliothèque de la Pléiade, avec un certain nombre de textes, quoi, 7, 8, je n'ai pas fait le compte, mais je rappelle lesquels. Mémoires d'une jeune fille rangée, La force de l'arge, La force des choses, Une mort très douce, Tout compte fait, et La cérémonie des adieux pour cette édition. Alors, on a évoqué tout à l'heure déjà La cérémonie des adieux, pardon, ce texte sur les dernières années de la vie de Jean-Paul Sartre. J'avais dit qu'on consacrerait peut-être un temps un peu particulier à une mort très douce, parce que c'est vrai qu'il a dans ce corpus une place un peu particulière. D'abord un texte plus court, et puis qui est tout entier consacré à la disparition de sa mère. D'ailleurs, Simone de Beauvoir, comme elle le fait souvent, prend conseil pour savoir s'il faudrait qu'elle écrive sur ce sujet, Elisabeth Philippe.
Oui, bah c'est justement lorsque nous avons rencontré Sylvie Lebon de Beauvoir avec Grégoire Leménager. Donc Sylvie Lebon de Beauvoir était beaucoup plus jeune que Simone de Beauvoir, puisqu'elle a écrit à Simone de Beauvoir. Elle était alors étudiante en hippocagne, je crois, à Rennes, et elle venait de lire Le deuxième sexe, qui est paru en 59, si je ne me trompe pas. Donc on était au tout début des années 60. Sylvie Lebon de Beauvoir, fascinée par ce texte, écrit une lettre d'admiratrice à Simone de Beauvoir, qui lui répond et lui propose de la rencontrer. Et à partir de là, elles vont nouer une relation, une amitié et un lien quasi-filiale, même si Sylvie Le Bon de Beauvoir dit qu'elle n'avait pas du tout des rapports mère-fille.
C'est 49, hein, le deuxième siècle.
C'est 49.
59, c'est les mémoires d'une jeune fille rangée.
Merci. Pardon. Je savais qu'il y avait un œuf quelque part, quand même.
Oh, 10 ans près.
Oui, c'est finalement.
Que c'est vu d'ici, surtout.
Exactement.
Vu de 2019, où nous sommes.
Bien sûr.
Bon, allez, allons-y.
Et donc, elle était beaucoup plus jeune que Simone de Beauvoir. Elle nous confiait qu'elle avait été très étonnée lorsque Simone de Beauvoir lui avait demandé conseil. Il faut savoir, sa mère venait de mourir et elle demande à Sylvie Le Bon de Beauvoir, est-ce que tu penses que je devrais écrire quelque chose là-dessus? Et là, Sylvie Le Bon de Beauvoir était un peu interloquée. Elle lui dit, mais oui, bien sûr, faites. Et donc, elle a écrit effectivement ce texte qui tient une place particulière dans son œuvre, et je pense qu'il a permis aussi peut-être à des lecteurs de l'époque de la redécouvrir et de découvrir cette facette, on va dire, plus tendre de cette femme qui pouvait faire l'effet. Alors elle met cette expression dans la bouche d'un des personnages dans La Force des choses ou La Force de l'âge, qui lui dit, mais vous êtes une horloge dans un frigidaire. Donc, elle avait ce côté charmant, froid, effectivement. Et d'ailleurs, Sylvie Le Bon de Beauvoir dit que cette phrase a été... C'était vraiment une erreur de d'écrire cette phrase, parce que ça l'a poursuivi longtemps, Simone de Beauvoir. Mais voilà, une mort très douce laisse apparaître peut-être une autre facette de Simone de Beauvoir, la théoricienne, et puis aussi la mémorialiste, qui a pu avoir des mots très durs envers sa mère, envers ses parents, notamment dans les mémoires d'une jeune fille rangée.
Étienne de Montetti ?
Oui, ça clôt. Une jeune fille rangée, effectivement, avec ses rapports avec sa mère, qu'elle aime, qu'elle admire et dont elle essaye de comprendre le statut précis. C'était un couple assez étrange. Les parents de Simone de Beauvoir, ce père, chez qui elle est allée chercher notamment une liberté d'esprit assez inattendue dans ce milieu, mais qui est resté un homme de son temps, qui lui dit quand même, tu as un cerveau d'homme quand elle est admise à la grecque, donc avec des formulations évidemment qui nous paraissent un peu malheureuses aujourd'hui. Et puis, cette femme avec qui elle a des rapports difficiles parce que c'est une femme de son époque, qui ne comprend pas pourquoi sa fille ou ses filles veulent s'extirper de ce milieu avec ses conventions. Et puis, face à la mort, effectivement, face au vieillissement, un peu comme pour la cérémonie des adieux, beaucoup de choses tombent. Moi, je trouve que ce sont des livres assez beaux, mais assez ravageurs, parce qu'au fond, une vie de philosophie, et puis à la fin, face à la mort, face à un être qu'on aime, face aux amours, les amours contingentes, la libération, la femme rangée qui s'est... Mais il y a quoi? Il y a deux êtres qui s'aiment, qui se disent je t'aime, et qu'on accompagne dans la mort avec ce qui est vraiment le béaba de l'existence humaine, c'est la sollicitude, la tendresse, et c'est deux textes qui finalement clôturent et d'une certaine manière anesthésient ce qui précède. Ce sont deux livres avec un statut particulier, mais très très beau, et c'est très bien qu'ils arrivent pour ponctuer ces deux volumes. Il faut les lire après avoir lu le reste et avoir bien compris à qui on avait affaire.
Une mort très douce, Jean-Christophe Brianchon.
Je suis pas exactement d'accord sur le fait que ça anesthésie le passé de Simone de Beauvoir ou le passé de sa démarche, dans la mesure où, effectivement, au moment donné de la mort et la façon même dont elle le raconte, effectivement, la philosophe n'est plus que femme. Mais malgré tout, il reste la philosophe et l'auteur qui, à la suite de ça, est quand même en mesure d'écrire ce livre-là. Comme un écrivain, mais comme un écrivain toujours doué d'une force de vie et de réflexion, d'auto-réflexion sur ce qui lui est arrivé, qui est absolument remarquable. Et c'est en ça que je pense que c'est effectivement ces deux volumes sont très importants dans cette démarche mémorielle, enfin mémorialiste. Mais après, je suis toujours un petit peu partagé sur le fait de l'intégrer dans les mémoires de Simone de Beauvoir ou non. Finalement, j'aime bien l'idée de me dire que c'est peut-être des livres à part qui veulent dire autre chose, justement, qui ne sont pas exactement partie prenante, même sur le plan de la démarche littéraire et linguistique même. Je pense que c'est des livres qui ne veulent pas du tout dire la même chose et qui ne s'inscrivent pas réellement dans la même démarche que les autres tomes de ses mémoires.
Pas dans la même démarche, mais elle l'a complexifiée, elle l'épaissit, elle l'enrichit, il me semble. Enfin, non pas qu'elle l'anesthésie, comme ce que vous avez dit. Étienne de Montetti, Elisabeth Philippe, pour vous.
Oui, je rejoins assez Jean-Christophe, notamment sur la dimension littéraire, l'écriture. Il y a quelque chose de très direct dans les autres textes, presque de l'ordre de la notation. Oui. Alors, c'est amusant.
Des faits, quoi, des faits.
C'est aussi la vertu des introductions des Pléiades. Gilliatt qui peuvent relever des détails comme l'usage du point-virgule chez Simone de Beauvoir, qui serait très révélateur de son rythme, de cette façon d'enchaîner les faits de façon assez rapide. Et c'est vrai que ça, voilà, ça mitraille. On l'a entendu parler tout à l'heure, on a entendu ce débit très particulier, mais finalement, je trouve qu'on le retrouve assez à l'écrit. Et d'ailleurs, elle disait qu'elle pouvait lui reprocher cette écriture, mais elle disait non, je ne prétends pas faire une œuvre d'art avec ces textes. D'ailleurs, elle a cette formule qui est assez amusante. Elle dit, d'ailleurs, je n'aime pas le mot œuvre d'art, ça me fait penser à une statue qui s'ennuie au fond du jardin d'une villa. Et je trouve ça assez amusant. Et d'ailleurs, elle est assez sévère envers elle-même, parce que je trouve que ça se lit très bien. Alors certes, il n'y a pas d'effet de lyrisme ou de recherche stylistique extrêmement éprouvée, mais il est vrai que pour, et notamment, surtout pour une mort très douce, il y a une recherche
qui est autre.
Absolument, absolument.
Me semble-t-il.
Oui.
Sauf que je suis tout à fait d'accord, si ce n'est que la façon dont elle utilise la langue dans les autres tomes est pour moi aussi... quelque chose de, enfin c'est pas anodin, il y a réellement du style pour moi, parce que justement faire je sais pas, ça doit faire 2000 pages lisible de bout en bout en ce qui m'a concerné absolument sans m'arrêter, c'est quand même assez rare, c'est une véritable prouesse stylistique, et il y a quand même quelque chose. Après effectivement, je pense que ses mémoires sont de toute façon plus remarquable par la force de sa démarche que par le style en tant que tel, mais
sauf que le style est parfaitement adapté à l'impact qu'elle veut avoir sur son lecteur, Étienne Montetti.
Oui, puis c'est assez maîtrisé. On parlait tout à l'heure, on pourra peut-être y revenir, mais quand elle quitte Saint-Germain, quand elle quitte ses amis et qu'elle part effectivement soit dans des voyages, soit dans des promenades, tout d'un coup on passe à la sensualité, qui est un registre qui n'est pas forcément au rendez-vous dans d'autres circonstances. Quand elle évoque notamment avec Claude Lanzmann une sorte de réveil d'elle-même, de son corps, etc. Elle a des pages extrêmement fortes qui n'étaient pas ce ton-là, c'était pas celui-là quand il était question d'échange avec Sartre sur l'existentialisme. Donc elle sait aussi varier les registres, c'est la marque d'un véritable écrivain.
Sidney Bechet ne peut pas faire de mal, surtout quand c'est à Paris en 1953 pour nous ramener vers les caves de Saint-Germain. Peut-être un petit commentaire, Boris Pinault, sur nos réseaux sociaux.
Oui, Sybille K salue une initiative heureuse pour cette grande auteure par le récit d'une vie de 1908 à 1986 qui mérite de figurer dans la bibliothèque de la Pléiade ainsi que dans toute bibliothèque.
Bon, dans toute bibliothèque. En effet, vous évoquiez, Étienne Montetti, quand même Claude Lanzmann. Ouvrons ce petit chapitre. On va avoir un chapitre Nelson Algren, mais ça va venir après, d'autres façons. Alors, bon, d'ailleurs, je crois que c'est à vous qu'elle raconte, Sylvie Lebon, de Beauvoir. Évidemment, qui n'a pas de démêlé avec Claude Lanzmann ne connaît pas Claude Lanzmann, donc on ne peut que se fâcher régulièrement avec lui. Ça peut être plusieurs fois, ça peut être à vie. on verra. C'est compliqué avec lui, c'est ça ?
C'est compliqué avec lui, il y a un litige au sujet des lettres et de la correspondance entre Claude Lanzmann et Simone de Beauvoir.
Il doit y en avoir.
Il les a confiées à Yale.
Ouais.
Et alors que Sylvie Le Bon de Beauvoir et l'exécutrice testamentaire de Simone de Beauvoir étaient tout à fait prêtes à les publier. Donc elle nous dit que elle a cette formule, Claude Lanzmann se sert de sa notoriété comme d'une matraque et il nous dit que de toute façon c'est pas grave. De toute façon, elle est la seule à pouvoir lire l'écriture illisible de Simone de Beauvoir, d'une part, et d'autre part, il ne pourra rien en faire.
Même aux États-Unis. Bon.
À voir.
À suivre. Mais c'est vrai qu'il y a ces échappées aussi, on les évoquait, Jean-Christophe Brianchon. Échappées, Lanzmann, échappées sensuelles, ouais. Échappées...
Et d'ailleurs, pour ça, je trouve qu'il est aussi très intéressant de lire le livre de Patagonie de Claude Lanzmann, qui est là aussi complémentaire. Il aurait peut-être été de mauvais goût de l'introduction de l'autre.
Je crois. Ça aurait été tout à fait de mauvais goût.
En tout cas, c'est...
Lanzmann n'aurait rien contre être en Pléiade, à mon avis.
J'imagine bien qu'il a peut-être demandé.
C'est écrit dans les cieux qu'il sera en Pléiade, allons. Bon.
Mais pour autant, cette relation est effectivement intéressante et d'autant plus intéressante quand on a effectivement les deux sons de cloche. Mais ce qui est intéressant, c'est pas exactement de toute façon la relation qu'elle a pu avoir avec lui en personne. C'est de toute façon ce que ça montre et ce qui peut résonner à travers cette relation dans la façon qu'elle a pu avoir d'envisager sa vie et ses amours.
Ce qui est drôle, c'est que les hommes la font voyager. Algren lui fait découvrir les États-Unis. Avec Lanzmann, elle va en Espagne, elle va en Italie. Elle goûte d'ailleurs avec eux des plaisirs coupables, hein, parce que sa mémoire est bonne. Algren l'initie à la boxe. Ouais. Et puis Lanzmann, Oresco référence, l'initie à la tauromachie, ouais. Sur lequel elle a des pages très intéressantes, ouais. Qui sont plus incorrectes que ce qu'on aurait pu imaginer venant d'elle. Mais quand elle est avec Sartre, par exemple, à Saint-Lambert-des-Bois, sur le chemin de Racine, elle retrouve ce lyrisme champêtre, agreste. Apparemment, la nature lui, ouais. va bien. Elle aurait dû déménager, quitter la rue de Rennes et aller habiter à la campagne. Et ça aurait donné probablement quelqu'un de beaucoup plus sensuel, un peu une sorte de Colette qui aurait été agrégée de philosophie. Et ça donne des pages vraiment magnifiques où vraiment elle libère et là ce temps extraordinaire où elle est véritablement un grand écrivain beaucoup beaucoup plus à l'aise que dans des pages très maîtrisées où effectivement les mots à cause des idées qui sont abordées ont de l'importance.
Confirmé, vous avez
étudié. Oui, c'est très juste, mais c'est vraiment une voyageuse insatiable. Ses compagnons de voyage ont parfois du mal à la suivre. Je crois que c'est Bost. Il y a un petit dessin qui est reproduit dans l'album de la Pléiade, où il dessine Simone de Beauvoir devant et un Bost épuisé, exténué derrière. Donc oui, en lisant ses mémoires, on voyage aussi beaucoup. Elle va évidemment en Algérie, au Maroc, il me semble. Avec Algren, ils vont aussi au Guatemala.
Ils vont en Amérique latine, oui, je sais plus.
En Amérique latine, ouais. je ne sais plus où. Enfin, elle voyage tout le temps et elle en rapporte des textes. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Étienne de Montetti lorsqu'elle parle de la nature. C'est une autre Simone de Beauvoir, oui. Oui, oui.
Il y a un livre dont on n'a pas encore cité, un texte qu'on n'a pas encore cité dans cette dispute. C'est Tout compte fait.
Qui est dédié à Sylvie.
Voilà, qui est dédié à Sylvie. Il a quel statut pour vous ce texte-là, Elisabeth Philippe ?
Oh, il est vraiment...
Avec un titre pareil, on se dit, mais qu'est-ce que...
Oui, on pourrait penser que c'est un bilan. Ouais. Pour moi, il s'inscrit vraiment dans la lignée des précédents, et notamment de la force de l'âge et la force des choses. Que dire ? Elle raconte beaucoup sa relation avec Sylvie, sa rencontre avec Sylvie Le Bon de Beauvoir. Elle est d'ailleurs pas très tendre quand elle fait la description de la jeune fille qui la rencontre à l'époque. Elle parle d'une jeune fille qui louche, qui est assez maladroite. Et en même temps, c'est touchant, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission et de l'affinité élective qui se joue là. Je ne sais plus si c'est à la fin de Tout compte fait qu'il y a cette fameuse clausule où elle dit « j'ai été flouée », ou si c'est à la fin de La force de l'âge. Une clausule qui a beaucoup fait parler, puisqu'on... Étienne de Montetti parlait tout à l'heure, ouais. du fait que son travail de philosophe était anesthésié par les textes plus tendres, et le « j'ai été floué » a été aussi lu à l'époque,
ouais.
comme cette femme qui avait voulu sa liberté, qui a tout fait pour l'émancipation, et maintenant elle le regrette, elle n'a pas eu d'enfant, elle le regrette, ça a été lu de cette façon-là. Ouais. Et Sylvie Le Bon de Beauvoir maintient mordicus que ce n'est pas du tout de cette façon qu'il faut lire cette phrase, mais au contraire qu'elle a été flouée parce que la vie était beaucoup plus dure que ce à quoi elle s'attendait.
Jean-Christophe Briançon est en train de chercher.
Je cherche
la référence. Ouais. Dire encore un mot, peut-être, et en sortant de cette Pléiade, puisque les Saint-Pères, éditeurs de manuscrits, viennent de publier le fac-similé du manuscrit du deuxième sexe, 1000 exemplaires numérotés. On avait déjà eu les carnets, les manuscrits de Proust. Alors, c'est un manuscrit qu'on croyait avoir disparu, qui a ressurgi lors d'une vente aux enchères. Sylvie Le Bon de Beauvoir en signe la préface, cette édition. Leïla Slimani, la postface. Est-ce que vous avez pu l'avoir entre les mains, voir ce volume, Étienne de Montetier?
Non, mais il paraît que son écriture est difficile à lire.
Donc, illisible.
Donc j'espère qu'il y a quand même à côté le texte tapé, parce que sinon, l'intérêt est assez
intérêt
nul.
Intérêt fétichiste.
Pour, oui, à part en tout cas, pour l'édition de Proust, ils avaient mis en parallèle la version tapuscrite, parce que sinon, c'était absolument illisible. J'espère qu'ils ont eu la bonne idée de faire la même chose ici, parce qu'effectivement, ça peut être compliqué. Sinon.
Mais c'est vrai qu'on confirme que c'est assez difficile à lire. Le Simone de Beauvoir dans le texte. Vous avez trouvé une dernière citation, peut-être?
Non, le flouet, c'est bien la fin de la force des choses.
Ouais. Bon, ben voilà, une dernière information donc, concernant ces mémoires, volume 1 et 2, mémoire de Simone de Beauvoir, édition de la Pléiade. Et à suivre dans la dispute, donc, on va parler en effet de Nelson Algren, auteur de Chicago, Le ciel et l'enfer.
La dispute, France Culture. La porte.
Chicago, Le ciel et l'enfer, Nelson Algren, il est publié chez Bartilia dans une traduction de Christophe Mercier. Si vous voulez savoir à quoi ressemblait la ville de Chicago début des années 50, vous n'allez pas être déçus. Arnaqueurs et politiciens, qui sont parfois les deux en même temps, hein, ça n'étonnera personne. Prostituées notables qui souvent se connaissent bien, ça n'étonnera non plus personne. Battent le pavé de la ville sous la plume de Nelson Algren, que l'on connaît donc bien en France, pour cet amour passionné qu'il vécut avec Simone de Beauvoir. Dreamliner's game. Avant de gagner le droit de mépriser n'importe quel endroit, il faut d'abord l'aimer un petit moment. Il faut commencer par appartenir à Chicago comme un ticket de transfert émis par le dépôt d'Armitage Avenue. Et à ce moment-là, juste parce que vous avez traversé la ville, vous ne pouvez pas la mépriser. Cependant, quand on a essayé New York pour sa taille et qu'on a passé un moment à Paris, qu'on a vécu assez longtemps à la Nouvelle-Orléans pour commencer à sentir les docks, et appartenu un certain temps au vieux Marseille, si les rues de Naples vous ont réchauffé et que celles de Londres vous ont frigorifié, quand on a vu le plafond bas de la terrible lumière gris-vert de l'Afrique se déplacer sur le Sahara, ou même quand on a rapidement traversé Cincinnati, alors Chicago devient enfin votre enfant, et vous pouvez dire, et vous y tenir, que c'est une grande gueule malfamée et pleine de bidonvilles dont les défis résonnent dans le monde entier comme ceux de n'importe quel jeune voyou dans n'importe quel bar de quartier dont les piliers les plus mûrs ont l'indulgence des gens âgés. Ce petit voyou jacasse parce qu'il a encore les genoux qui tremblent. Quel est le pourcentage ? Demande le voyou comme s'il avait vraiment le droit de le savoir. C'est qui tient le coin ? Une ville qui a de multiples moyens, certains secrets et d'autres au grand jour, de tenir ses coins aussi bien que ses avenues. Une ville pleine de mots de colère, certains prononcés à voix haute et d'autres tout bas, certains du coin des lèvres et d'autres sans hésiter. C'est un extrait d'un des segments de ce livre de Nelson Algren, qui visiblement est un classique aux États-Unis. On rappelle que Nelson Algren est quand même un écrivain fort réputé, l'homme au bras d'or peut-être est le livre de lui le plus célèbre, mais sa notoriété n'a pas forcément franchi l'Atlantique, Étienne de Montetier.
Non, il y a eu La rue chaude aussi qui était dédiée d'ailleurs à Simone de Beauvoir. Il a fort à faire avec la concurrence de Steinbeck ou Hemingway, etc. Il y a beaucoup de monde, ce qui fait qu'il est un petit peu en dessous. Alors, il décrit évidemment un Chicago, son Chicago. Mmh. C'est pas celui qui donnera naissance à Barack Obama et à Michelle Obama. C'est un autre monde. Et en lisant ce livre, je comprenais pourquoi, dans les mémoires de Simone de Beauvoir, il y a un pays qui pose un problème à la planète. C'est pas l'URSS, c'est pas la Chine, c'est pas Cuba, c'est les États-Unis. Et évidemment, parce qu'elle le découvre, elle découvre ce pays à travers Nestor Lindgren, qui lui fait, encore une fois, on a dit qu'elle voyageait par les hommes qu'elle aimait, il lui fait visiter vraiment les bas-fonds de Chicago. Elle en fait, elle, une lecture assez sage, avec des énumérations des lieux où elle est allée, les abattoirs, j'avais noté, les postes de police, les line-up, les hôpitaux. Lui en fait une description, alors évidemment, assez dantesque. C'est un corps vivant, c'est un petit peu comme chez Zola. La ville est le corps vivant qui vit, qui souffre, qui éructe, qui crie, qui saigne. Et ça fait un livre extrêmement vivant, pittoresque, beaucoup de pittoresque, un peu trop je trouve. Je dis que c'est pas à la hauteur des grands écrivains qu'on a cités là, Hemingway ou Steinbeck, etc., parce qu'il y a cette espèce de caractère monocorde dans le pittoresque, les noms des personnages avec leurs surnoms. Ça va dans les bandes dessinées, mais au bout d'un moment, on en a un tout petit peu assez de Shawless Joe, Paddy the Bear, Bathhouse John, etc. Et il y a une forme de lassitude qui s'installe. C'est un journalisme de qualité, de talent, et qui n'arrive pas tout à fait au bout de ce qu'il voudrait faire. Et c'est pour ça que Nelson Algren reste, au fond, un écrivain peut-être de deuxième rayon.
Oui, ça ne décolle pas vraiment. Mmh. Et on peut être quand même assez fatigué de lire les notes en bas de page, Elisabeth Philippe.
J'avoue que j'ai éprouvé une forme de saturation.
Mais si on ne les lit pas, on ne peut rien comprendre en même temps. Non, c'est tout
là, il y a des phrases, il y a une note de bas de page par mot, quasiment. Donc c'est vrai que ça parasite un tout petit peu la lecture. Après, il y a des fulgurances aussi. Algren bâtit une mythologie de Chicago. Donc, vous l'avez dit, Arnaud, Chicago peuplé d'arnaqueurs, de voyous, de malfrats, de personnages interlopes. C'est assez amusant. Et c'est vraiment Chicago, l'incarnation de l'envers du rêve américain, du mythe américain. Bon, tout ça, c'est pas très original, mais encore une fois, il y a quelques formules parfois qui viennent illuminer cette litanie. Il y a un côté un peu litanie, vous le disiez, avec tous les surnoms. Moi, c'est vrai que par moments, j'étais un peu fatiguée. Et puis, il y a ce rythme très saccadé, parfois assez binaire, fiévreux. Quelque chose qui rappelle un peu le roulement du métro, qui est d'ailleurs très présent aussi. Hein, le fameux L, le métro de Chicago, qui est l'une des fiertés de la ville. Donc, on retrouve ça. Il y a une prose assez métallique, industrielle. Il est beaucoup question des raffineries, des aciéries, donc il y a ce martèlement, mais qui par moments pouvait me lasser, mais heureusement relevé ci et là d'une jolie trouvaille stylistique. Je sais plus, à un moment il parle des fleurs de néon, enfin il y a des choses comme ça, et il avait beaucoup de mépris pour la Beat Generation. Moi je trouve que on retrouve un peu parfois des excès ou des travers de la Beat Generation dans ce texte. Je l'ai dit, il y a beaucoup de notes de bas de page, il y a aussi beaucoup de questions de baseball et
c'est bizarrement pas votre sport préféré.
Mais il existe livres, des romans américains grâce auxquels on s'intéresse à ce sport, mais ça ne sera pas le Chicago de Nelson Algren. Et bon, pour moi finalement, il n'arrive pas à la cheville de Sol Bello, qui reste à mes yeux le grand écrivain de Chicago. Les aventures d'Oggy March me donnent à voir et à lire un Chicago bien plus vivant, bien plus réel, bien plus truculent que celui de Nelson Algren, pourtant peuplé de tous ces personnages haut en couleur.
Jean-Christophe Briançon, sur ce livre Chicago, le ciel et l'enfer.
Moi, je suis entièrement d'accord avec mes collègues et je pense que c'est d'autant plus... Ça reste quand même un livre très intéressant, et en l'occurrence, en plus, cette édition-là, je trouvais d'autant plus intéressante pour ceux qui connaissent et apprécient Nelson Algren, qu'elle agrège, en l'occurrence, d'une certaine manière, trois des éditions américaines qui ont été publiées en mettant ensemble dans la même édition la préface et la postface qui, précédemment, étaient séparées dans des éditions différentes. Donc c'est quand même, en tout cas sur le plan éditorial, un travail intéressant, et un livre qui aussi est intéressant parce que malgré tout, comme le disait Elisabeth, il y a quand même au milieu de cette langue effectivement assez métallique et compliquées. Il y a des trouées poétiques qui parfois sont absolument remarquables, qui sont assez comparables d'ailleurs, j'ai trouvé, avec la façon dont il envisage le politique, parce que c'est évidemment aussi un livre éminemment politique, puisque selon lui, son Chicago disparaît, non pas par le fruit du hasard, mais parce que, d'une certaine manière, il le dit à un moment, ses habitants ne finissent par ne plus penser qu'à faire du fric, et donc ça fait disparaître le Chicago qu'il aime. Et ça lui permet par là de développer une pensée politique qui, à l'image de son style, est bien souvent... j'allais dire inintéressante, c'est absolument faux et méchant, mais en tout cas une pensée politique qui est un peu brumeuse et dans laquelle on se perd de temps en temps, alors qu'à l'inverse, à certains instants, en particulier à la toute fin du livre, il parvient à faire preuve d'une forme de lucidité politique sur ce que sont les États-Unis, sur ce qu'est cette ville et ce qu'elle est vouée à devenir, qui est là aussi absolument remarquable.
Oui, parce qu'il est sans cesse partagé, hein, Nelson Algren, entre cet amour évident et cette détestation. Il y a un côté comme ça très, très masochiste dans cet amour de la ville. Où parmi les formules qu'il a, j'avais repéré celle-ci, où il parle de Chicago. Chicago, c'est un endroit construit par l'éternelle incapacité de l'homme à se dominer. Parce que là, effectivement, tous les travers sont possibles dans cette ville. Et en même temps, il dit, quelle est la ville où il y a la meilleure justice possible, si on sait qu'avec un pot de $2,500, le juge ne vous condamnera pas. Donc c'est quand même une ville très très fiable aussi.
Il aime la ville, il en aime pas les habitants, il en aime pas les hommes. Et c'est très curieux, il a une révolte profonde. D'ailleurs, il est sûrement en souffrance, hein. Il y a quelque chose de très très sincère. Et on a l'impression, à la fin, il y a quelques allusions, on a l'impression qu'il cherche la solution à sa souffrance, notamment dans ses relations avec Jean-Paul Sartre. Il y a une sorte de clé politique, une clé qui va lui être donnée pour venir remédier à tout ce qu'il a pu décrire d'injustice et d'horreur dans Chicago. Et c'est drôle parce qu'elle évoque d'ailleurs, elle cite Simone de Beauvoir pour finir avec ses mémoires, un mot d'Algren, il dit « Autrefois je vivais en Amérique, maintenant je vis sur un territoire occupé par les Américains ». Ça veut dire qu'il a vraiment un amour charnel de sa ville, et en revanche l'évolution, notamment par les hommes, notamment ceux qui réussissent, bon, il y a les ligues de vertu contre lesquelles il est assez critique, etc. Ce que les hommes font cette ville lui déplaît souverainement et même le blesse.
Et les origines même de l'Amérique, finalement, puisqu'il évoque souvent les Indiens.
Oui.
Il dit qu'ils étaient bien trop réglo, c'est ces
mots.
C'est cette façon, encore une fois, de renverser le mythe de l'Amérique, le mythe américain, en revenant sur les origines même de ce pays, fondé sur un massacre. Et Chicago elle-même est une ville fondée sur des marécages. Donc ce côté sale, déjà, à l'origine même de la ville et du pays. Et c'est vrai que la postface, donc celle, ce passage, ce texte dans lequel il fait référence à Sartre, et notamment sur le rôle de qu'est-ce que la littérature, il reprend qu'est-ce que la littérature, donc c'est ce que disait Jean-Christophe aussi, c'est que comment on peut changer cet état des choses. Je ne sais pas si c'est lucide, j'ai l'impression que je n'ai pas non plus bien compris ce qu'il voulait nous dire, mais c'est un texte qui a été très mal reçu, parce qu'il évoque aussi les critiques qui ont été faites au moment de la publication, enfin de la parution du livre.
Violent,
Il y avait un critique qui a parlé d'objets qui puent. Alors, je ne serai pas aussi violente. C'est quand même intéressant. Si vous projetez d'aller à Chicago, pourquoi pas lire ces quelques pages. Mais c'est vrai que c'est un tout petit peu daté. Je pense que c'est tellement, il est tellement dans les anecdotes, dans cette énumération de noms, et donc qui, pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, nécessite tous ces bas de page. Il y a quelque chose d'un tout petit peu daté, là où je pense que ça se voulait très moderne au moment où c'est sorti. C'est plus vraiment le cas.
On a un objet d'étude, un objet d'histoire, là, Jean-Christophe Brianchon.
Oui, quasiment un objet d'histoire, mais je pense qu'il y a aussi, c'est une question que je me suis posée, à laquelle j'ai pas nécessairement de réponse, mais je me demande s'il est finalement possible de rendre accessible ce genre d'objet littéraire dans une traduction française, en l'occurrence, et pour un lectorat qui ne soit pas habitué
ou connaisseur de l'histoire de Chicago de baseball.
Je me demande dans quelle mesure c'est possible. Ouais. Peut-être qu'en fonction du passé individuel de chacun, le livre sera plus ou moins accessible. Pour autant, moi, je maintiens quand même que le propos politique qu'il peut avoir a une forme de d'intérêt et en plus n'est en l'occurrence pas toujours daté, même juste dans la manière de l'exprimer. Moi j'ai noté, si vous permettez, juste ouais. deux phrases qui pourraient être dites exactement de la même manière aujourd'hui. Je sais pas si elles sont lucides ou non, mais en tout cas elles pourraient être dites de la même manière. Il dit: quand les leviers du pouvoir sont aux mains de ceux qui ont perdu le désir d'agir honnêtement, c'est à ceux qui ont été exclus des privilèges de notre société, auxquels on a laissé que ces horreurs, qu'il revient de forger de nouveaux leviers qui pourront nous rendre l'honnêteté. Je trouve que finalement, oui, bah, ça pourrait être dit.
Il était communiste, hein.
Oui, non, mais ça pourrait être dit aujourd'hui.
Ah bon?
Finalement, alors, je ne sais pas si le langage n'a pas évolué ou si lui a fait preuve d'avance sur le langage qui est celui de la lutte communiste, si elle existe encore aujourd'hui. En tout cas, toujours est-il que cette phrase-là pourrait être dite de la même manière aujourd'hui.
Ah, le mot de la fin pour Étienne de Montetti.
C'est beau comme du Mélenchon.
Mais exactement. Exactement, c'est ça qui est étonnant, justement. Après, je ne sais pas si c'est beau ou pas, mais en tout cas, c'est amusant.
Bon. On reste là-dessus concernant Nelson Algren et ce livre Chicago, Le ciel et l'enfer, dans une traduction de Christophe Mercier, me semble-t-il. Il faut que je rouvre la page. Voilà. Oui. Christophe Mercier, merci de me le souffler quand même. Et avant de conclure tout à fait cette émission, nous retrouvons Camille André qui vient nous faire gagner des cadeaux. D'abord, nous rappeler la question du jeu d'hier au soir pour le jeu de la dispute et nous donner sa réponse, Camille.
Comment se nomme l'école de danse créée par Delavalle Bidier-Fauneau à Brazzaville? Et il s'agit de l'espace Banning Art.
Ce soir, des hors-séries Télérama, l'appel de la forêt en partenariat avec France Culture a gagné. Quelle est la question, Camille?
Eh bien, qui est l'auteur du roman Dans la forêt, paru en France en 2018, dans lequel deux sœurs demeurent seules en plein cœur de la forêt, alors que la civilisation autour d'elle s'effondre peu à peu.
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission retrouvées sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. Nous serons accompagnés de Corinne Rondeau, Anaël Pija et Stéphane Coréard à notre affiche L'Envol. La dernière exposition, hélas, à voir à la Maison Rouge, qui fermera ses portes le 30 octobre. Parlerons du centre ne peut tenir cette exposition, à voir en ce moment à Lafayette Anticipation. Et enfin, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, l'exposition consacrée à Eric Dittmann.